Chers amis, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, pour relire le passage qui sert de base à notre réflexion. Exode chapitre 17, nous lisons les versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Dans le Nouveau Testament, nous allons jusqu'à la première lettre de Paul aux Corinthiens. Première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 10. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10. Nous en lisons les 6 premiers versets. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 6. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. » Et puis enfin, dans l'Épître aux Hébreux, vers la fin donc du Nouveau Testament, Épître aux Hébreux, au chapitre 12, Hébreux chapitre 12, versets 14 à 17, Hébreux 12, 14 à 17, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive ou ne se détourne de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Nos premiers mots d'hier soir ont été pour nous permettre de nous situer. De nous situer, soit dans l'armée de Jésus-Christ, dans ce peuple de combattants, pour lui, avec lui, soit de nous situer dans le ramassis. De quoi nous choquer, n'est-ce pas, surtout pour ceux qui nous rejoignent ce soir. Mais c'est un terme des Écritures. Dans le texte le plus littéral d'Exode chapitre 12, il nous est dit que, à côté de combattants, 600 000 hommes de pied, il y eut un ramassis. Un ramassis qui partit dans le sillage de cette armée, mais qui était donc composé de profiteurs, d'opportunistes, qui simplement voulaient profiter des avantages que l'Éternel était en train d'accorder au peuple d'Israël. Soldats du Seigneur ou opportunistes, tel était la première question. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Notre deuxième remarque hier soir était pour souligner que nous sommes invités à combattre le bon combat, ou encore le beau combat, puisque le terme va dans les deux directions complémentaires. Combattre le bon combat, ce qui sous-entend qu'il existe un mauvais combat. Et nous avons souligné hier soir que trop de croyants, trop d'églises sont engagés dans un combat destructeur. Luttes intestines, jalousie, calomnie, médisance, esprit de parti et tant d'autres éléments destructeurs d'authentique unité dans l'église locale. Unité tellement nécessaire, nous le verrons, pour la victoire dans ce combat. Donc, là encore, pour nous, deuxième question, sommes-nous engagés actuellement dans un bon combat ou dans un mauvais combat? Troisième élément d'introduction qui était fait pour nous réjouir, dans la mesure où nous sommes engagés dans un bon combat, dans le bon combat de la foi, nous pouvons bénir Dieu pour son amour, pour sa pédagogie parfaite, qui dose le combat de manière à ce qu'il soit supportable, à ce que nous puissions apprendre, à ce que nous puissions grandir, à ce que nous ne soyons pas opposés d'emblée à des géants qui nous écrasent. Nous nous sommes appuyés encore sur un texte dans l'environnement de notre thème d'Exode 17, au chapitre 13, au verset 17, lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Et Dieu a donc fait faire un détour à son peuple, parce que Dieu savait que son peuple serait défait, même si lui est Dieu, même s'il est le généralissime, même s'il combat pour nous. Dieu savait que dans cette progression de son peuple, il n'était pas encore apte à être vainqueur dans une situation de combat face aux Philistins. Le combat est dosé pour pouvoir apprendre, supporter, vaincre. Quatrième remarque, et nous entrions hier soir dans la première des 9 caractéristiques détectées dans Exode au chapitre 17 concernant la guerre spirituelle, le combat a lieu contre un ennemi qui rôde, un ennemi rusé, un ennemi qui n'a aucun scrupule, qui ne sait pas ce qu'est le combat à la loyale. Il n'est pas chevaleresque. Tout est bon pour lui. Et il va, dans l'histoire qui nous intéresse, s'attaquer par derrière. Il n'hésite pas à tomber sur les traînards. Au moment où le peuple est épuisé, nous ne l'avons pas souligné hier soir, mais nous aurions pu le faire. Il arrive dans une vie d'église locale qu'on épuise l'église locale par une succession d'efforts répétés, gros efforts d'évangélisation, gros efforts de ceci, gros efforts de cela. Alors on tend l'église locale comme un élastique de plus en plus, n'est-ce pas ? Jusqu'à ce qu'un jour ça craque. J'ai connu des églises évangéliques en région parisienne que j'ai vues comme cela en les visitant régulièrement, que j'ai vues peu à peu s'essouffler. Jusqu'à ce que ça craque. Et il faut faire attention dans une église locale de s'occuper quand même de ceux qui sont épuisés, de ceux qui sont à l'arrière. On ne peut pas dire simplement on travaille avec ceux qui foncent. Il y en a qui ont besoin d'être entourés. Et vous savez, une église, ça peut vite devenir une usine. Quand dans une église, on commence à être trop préoccupé par la stratégie, par l'organisation, par les plannings, on oublie qu'une église est composée d'hommes et de femmes. On déshumanise l'église. Et c'est l'éternel problème, nous l'avons vu hier soir, de nos déséquilibres. On peut faire du nombrilisme dans l'église locale et attacher beaucoup trop d'importance au fait que nous sommes des êtres humains. Et verser dans un sentimentalisme qui fait qu'on finit par ne plus s'occuper que des traînards. Mais à l'opposé, lorsqu'on a une sensibilité qui veut travailler avec des structures, avec une stratégie, avec une bonne organisation, avec de bons programmes, il arrive qu'on oublie que l'église locale est composée d'hommes et de femmes. Et qu'il faut veiller à l'homogénéité, à l'unité de l'église locale. Donc il faut aussi savoir s'arrêter pour panser les blessures, pour approfondir la relation avec le Seigneur, pour plonger des racines en profondeur. Parce que sinon l'ennemi est là. Et il guette. C'est l'éternel problème, n'est-ce pas ? Vous foncez trop en avant, l'ennemi vous pousse encore plus en avant. Vous commencez à traîner, l'ennemi vous tombe dessus par l'arrière. Je le dis simplement au passage. Donc, je m'appuie là sur Deutéronome 25, versets 17 et 18, où nous avons ces précisions. Et nous avons donc insisté aussi hier soir sur le fait que, quand on est fatigué, on est tenté de baisser les bras. La fatigue émousse notre vigilance, déforme notre vision des êtres, des choses et des circonstances. Les problèmes prennent une autre dimension, les situations sont mal évaluées, l'échelle des valeurs est complètement faussée, et l'ennemi en profite. D'où la nécessité, et c'était une note tout à fait pratique dans notre conclusion hier soir, de savoir aussi aller faire dodo, de savoir se coucher dans un temps où l'on a oublié que la nuit est cette dans toute la mesure du possible pour dormir. Nous devons nous en souvenir. Et s'il est des domaines, je le répète, où on ne peut pas faire autrement que faire autre chose, que ce soit l'exception, que ce ne soit pas la norme. Mais veillons. Nous allons le redire ce soir. Nécessité de vigilance. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Souvenons-nous donc que nous avons un ennemi sournois, sans pitié, sans scrupule, qui exploite la moindre faille et qui sait adapter sa stratégie à chaque situation. Tel était notre thème d'hier soir. Ce soir, nous voulons considérer une deuxième caractéristique de cette guerre spirituelle qui va peut-être par certains côtés nous désarçonner parce que nous pouvons avoir nos propres ordres de priorité dans ce domaine. Mais j'aimerais tout simplement ce soir m'arrêter sur le fait que ce combat est celui d'Amalek contre Israël. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Nous avons, nous aussi, aujourd'hui et maintenant, affaire à Amalek. Amalek, dans l'histoire, Genèse 36, versets 8 et 9 et 12, Amalek, petit-fils d'Ésaü. Nous l'avons souligné au passage très rapidement quand nous avons évoqué hier soir la fatigue, l'excès de fatigue, la profonde lassitude, l'épuisement d'Ésaü, dont l'ennemi a profité dans cette guerre spirituelle, puisque dans cette lassitude, Ésaü a méprisé la bénédiction de Dieu, les promesses de Dieu, au profit du court terme, celui d'un bon plat pour retrouver des forces. Ésaü, donc, le matérialiste. Ésaü, le profane, littéralement. Celui qui, pour un mais, vendit son droit d'aînesse. L'impie, le profanateur. Celui qui méprise les choses saintes, comme le notera une version. Et il s'agit donc ici, en Amalek, du petit-fils d'Ésaü. Et nous savons par les Écritures que les descendants d'Ésaü ont été les ennemis implacables d'Israël. Ils ont joué un rôle important au temps de l'Exode. Et nous avons sur les lèvres du devin Balaam, dont Nombre 24-20, cette remarque, Balaam vit Amalek, il prononça son oracle et dit, « Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. » Amalek est la première des nations. La première des nations, c'est-à-dire dans le contexte de Nombre 22 à 25, le premier agresseur d'Israël, la première nation à s'opposer à Israël en tant que peuple de l'Éternel, comme nous le disions hier soir, la première des nations, le premier agresseur d'Israël. Alors la question qui se pose pour nous ce soir est toute simple. Que peut bien représenter Amalek pour nous aujourd'hui. Alors pour le comprendre, nous allons souligner à partir de notre deuxième lecture de ce soir. Vous vous souvenez de notre deuxième lecture, 1 Corinthiens chapitre 10. Et 1 Corinthiens 10, dans ses premiers versets, nous guide dans notre réflexion ce soir. Et nous indique que la marche du peuple d'Israël, depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, est en quelque sorte, dirions-nous, une sorte de parabole prophétique de la vie chrétienne, une sorte d'illustration particulièrement vivante et suggestive de la marche du peuple de Dieu. L'Égypte est une image du monde, de ce système impie avec toutes ses divinités. Pharaon est une figure de Satan. Et puis, dans Exode chapitre 5 à 15, nous avons une démonstration du combat victorieux de Dieu pour libérer un peuple de l'esclavage de l'Égypte, du monde et de son prince, Satan. Et ici, j'aimerais rappeler ce que je soulignais hier soir. C'est que le combat des chapitres 5 à 15 est véritablement le combat de l'Éternel. C'est Dieu qui combat. Tous les textes vont dans la même direction, tous les textes convergent. Et je vous les relivre, comme hier soir, parce qu'ils sont importants dans notre explication. Exode 14, verset 13-14, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Il combattra. C'est son affaire. Il va combattre vous, simplement gardez le silence. » Et il nous a dit au verset 25, « Il ôta les roues de leurs chars, rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'ennemi se rend compte qu'il a affaire à Dieu directement. Israël n'y est pour rien. Verset 30, « En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée, etc. » Chapitre 15, il est question du fameux cantique « Chantez à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. » De la même manière pour nous, nous savons que c'est Christ seul qui a vaincu Satan et qui nous a sauvés en mourant sur la croix. Nous n'avons aucune part dans ce combat titanesque, unique dans l'histoire cosmique de la croix. Ça, c'est le message de ces textes. Je ne suis absolument pour rien dans la victoire, et déjà dans le combat, mais dans la victoire de Jésus-Christ en ma faveur sur la croix. C'est Christ seul qui a combattu pour que nous soyons délivrés. C'est lui qui m'a sauvé. Nous pouvons reprendre à notre compte cet extraordinaire cantique d'Exode 15. Et puis on arrive à Exode 16, 17. Et nous constatons que le combat ne commence pour Israël que lorsqu'en quelque sorte il est en pleine possession de son salut. Lorsqu'il se met à manger
la viande et le pain, la manne, lorsqu'il se met à boire l'eau du rocher frappé à Horeb, là seulement, à partir de ce moment-là, auquel fait allusion 1 Corinthiens chapitre 10, n'est-ce pas ? Là seulement, Amalek se dresse. Quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, par la nuée, quand nous mangeons l'aliment spirituel, que nous buvons le breuvage spirituel, et il faut se souvenir que dans le chapitre 10 d'1 Corinthiens, il est question de boire la coupe du Seigneur et d'aller à la table du Seigneur et non à celle des démons. Il y a tout un contexte qui va dans la même direction. Lorsque nous mangeons l'aliment spirituel, lorsque nous buvons le breuvage spirituel, alors seulement, nous entrons dans le combat de la foi contre Amalek. Et si je m'en réfère à Amalek, petit-fils d'Ésaü, le matérialiste, alors Amalek devient pour moi d'abord, en premier lieu, la chair, la nature déchue, notre Ésaü intérieur, notre hippopotame moi, comme disait la maréchale Beauce, notre ou nos pesanteurs charnelles. Le premier ennemi qui se dresse sur notre route de croyant, c'est la chair. C'est la préoccupation de soi. C'est la préservation de la vie propre. C'est l'exaltation du moi. La mise en avant des plaisirs, de la jouissance. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que nous pourrions bien être surpris, être quelque peu désarçonnés d'aborder cette question de la guerre spirituelle sous cet angle-là. Amalek cherche toujours à reprendre ses droits dans le croyant et à entraver sa course vers le pays de la promesse. Amalek se dresse toujours, dès le début de la course chrétienne, en travers du chemin du disciple de Christ. D'ailleurs, c'est intéressant, dans 1 Samuel 15, et nous y reviendrons à ce texte, dans 1 Samuel chapitre 15, versets 1er et 2, il nous est dit que Samuel dit à Saül: c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Et je le connais. Celui qui me ferme le chemin lorsque je sors d'Égypte. Celui qui me fait connaître mes premières crises spirituelles de bébé en Christ. Celui qui me fait perdre mes premières illusions sur moi-même aussi. Amalek. Parce qu'il est vrai que une des grandes découvertes du début de la vie chrétienne, après l'euphorie des premiers moments, c'est celle d'Amalek, quand il pointe le bout de son nez. J'ai reçu une nouvelle nature en Christ. Ma vieille nature a été crucifiée avec lui. Et puis je découvre qu'une terrible bataille fait rage en moi. Terrible bataille. Et d'ailleurs, cette bataille ne va jamais cesser. Je m'insurge et je m'inscris en faux contre tout ce néo-évangélisme qui fleurit dans trop d'églises, qui laisse entendre que plus on avance dans la vie avec Christ, plus on s'installe dans une sorte de béatitude, d'état de paix presque entre ciel et terre, on mûrit. La vie devient plus facile avec Christ au fur et à mesure que l'on a de l'expérience. C'est complètement faux, je n'ai jamais vu cela dans les Écritures. Je dis que c'est le contraire. Plus on avance avec Christ, plus les situations deviennent complexes. Plus on peut être perplexe dans la recherche de la volonté de Dieu. Tout en connaissant tous les principes que je développe dans un de mes livres concernant la recherche de la volonté de Dieu. Plus on est exercé pour vivre dans la dépendance de Dieu, plus Dieu permet que nous soyons dans des situations inconfortables, qui ne sont pas destinés à nous enlever le repos. Le paradoxe, c'est que l'on peut vivre une vie chrétienne de combat, où l'on verse des larmes, où ça peut être très difficile tout en connaissant le repos. Et là où trop souvent, dans ce néo-évangélisme, on oppose le repos au combat, le paradoxe, le caractère révolutionnaire du christianisme biblique, c'est qu'il permet aux deux d'être étroitement associés. Je vis dans la présence de mon Dieu, j'apprends à me reposer en lui, tout en connaissant des combats d'une ampleur inégalée jusque-là dans ma vie. Alors mieux vaut le savoir tôt. Mieux vaut le savoir tôt que de le découvrir un jour et d'avoir le sentiment qu'on nous a trompés, qu'on ne nous a pas vraiment annoncé l'Évangile, mais une sorte de message à l'eau de rose, tellement loin du véritable Évangile de Jésus-Christ. C'est vrai qu'il faut savoir chanter « Si tu veux le bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur », mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut savoir de quel bonheur il s'agit. Il faut savoir ce que contient le mot « bénédiction » dans la pensée de Dieu. Hein ? Dieu ne donne pas forcément le même contenu au mot « bénédiction » que nous donnons à ce terme. J'ai sous les yeux un témoignage qui m'a beaucoup impressionné. C'est celui d'un homme de Dieu qui était connu pour sa marche humble et fidèle avec le Seigneur, qui avait de grandes responsabilités et qui écrit ceci. J'écris cette lettre à l'âge de 55 ans. Au cours des 10 ou 12 dernières années, j'ai souvent et beaucoup plus sérieusement qu'autrefois réfléchi au déroulement de ma vie. Certaines façons de penser, de me conduire et d'agir ont été ainsi mises en lumière, et quelques-unes m'ont mis mal à l'aise. Je revois les échecs répétés dans mes efforts de maîtriser mes luttes et mes craintes intérieures, de combattre mon immaturité et mon égocentrisme, de nouer des relations authentiques et enrichissantes avec d'autres personnes, de triompher de péchés habituels, de grandir en sainteté, de cultiver une meilleure communion avec Dieu. Je m'aperçois avec le recul du temps que chaque période de ma vie a été marquée par des luttes. Mais la persistance de mes échecs et une meilleure compréhension de mon vécu ont contribué à rendre les combats des dernières années encore plus intenses et plus douloureux. J'aime cette honnêteté, cette manière d'ouvrir la boîte, de montrer qu'un homme de Dieu n'est pas un surhomme, qu'une femme de Dieu n'est pas une surfemme, pardon de le dire comme ça, mais que nous connaissons après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie avec Christ, de rudes combats. beaucoup plus conscients que nous sommes de notre fragilité, de notre vulnérabilité, et beaucoup plus conscients que nous sommes de la facilité avec laquelle nous péchons, parce que plus vous vivez dans l'intimité de Dieu, plus, à cause de sa sainteté, vous êtes conscient de ce que vous êtes en réalité. Et c'est de cela que nous voulons nous entretenir ce soir. Ce n'est pas pour rien, n'est-ce pas, que l'apôtre Paul écrira dans Romains 6, 12, 13, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes, nous sommes dans le combat, hein, comme armes pour l'injustice. Et ce n'est pas une figure de style. Le terme grec est véritablement le terme arme. Mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Je pense à 1 Pierre 2,11, bien-aimé, je vous exhorte à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Vous n'avez pas connu de ces combats terribles à cause des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. De ces moments tellement difficiles où l'ennemi vous assaille, vous assaille, vous assaille encore, n'est-ce pas ? Dans une guerre implacable, dans un domaine particulier de votre vie. À un moment peut-être crucial où Dieu prépare une victoire. Et où vous êtes vrillé dans votre intérieur, n'est-ce pas ? Par toutes sortes de tentations. Quelqu'un écrit ceci, bien que le péché ne règne plus en nous, il ne nous laissera jamais tranquille. Nous avons été délivrés du règne du péché sur nous, mais non de ses attaques. Le péché, qui ne peut pas être le maître de notre personnalité profonde, peut régner dans notre corps mortel si nous le laissons faire. Il transformera les instincts naturels de notre corps en convoitise. Nos appétits naturels en complaisance, notre besoin de vêtements et de logements en matérialisme, notre vie sexuelle normale en immoralité. Voilà pourquoi Paul nous demande d'être sur nos gardes pour que nous ne laissions pas le péché régner sur notre corps. Je comprends alors beaucoup mieux cette parole qui est un trait par certains côtés tellement cruel de Dietrich Bonhoeffer, ce résistant allemand qui fut pendu en 1945 sur l'ordre d'Hitler à cause de sa résistance et qui écrivit ceci: quand Christ appelle un homme, il lui dit « Viens et meurs. » Quand Christ appelle un homme, il lui dit « Viens et meurs. » Et cela rejoint ce texte que Paul écrit à Timothée, de Timothée 2, 3-5. Vous connaissez très bien ce texte. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, le mot vie, bios, c'est-à-dire tout ce qui concerne nos biens, tout ce que nous avons besoin pour pouvoir fonctionner dans notre quotidien, les affaires de la vie. Il n'est pas de soldat qui s'en embarrasse, il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Ah, mes amis, qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Dans nos pays. Dans nos pays qui, en temps de crise, sont encore pourtant des pays de si grande abondance. Reconnaissons-le.
Je crois que certains de nos contemporains, parfois dans nos églises, vivent des situations très difficiles. Mais ce n'est pas le cas de la majorité d'entre nous. Et nous sommes encore capables aujourd'hui d'acheter un bon magnétoscope et bien d'autres choses. À l'heure où tant d'hommes et de femmes autour de nous ne savent pas quand ils prendront leur prochain repas. Donc il faut toujours relativiser quand nous parlons de crise dans notre contexte. Et dans un sens, oh, je le dis avec retenue, jusqu'à un certain point, je me réjouis. Au niveau du peuple de Dieu, et même au niveau du monde, mais pour d'autres raisons, de ce que nous entrions dans un temps où ça devient difficile. Enfin, nous allons retrouver une condition de vie d'église normale. Nous avons vécu une parenthèse exceptionnelle pendant quelques siècles. Nous ne savons pas très bien pourquoi. Tout cela appartient au dessein de Dieu, à sa souveraineté dans l'histoire des hommes. Mais toujours est-il que nous avons été rudement épargnés. Alors que tant de frères et sœurs dans le monde savaient ce que c'était qu'un sacré combat dans leur pays de souffrance. Et qu'encore aujourd'hui, une majorité de pays de ce monde, et je pense à ce grand empire chinois en quelque sorte, voit nos frères et sœurs en Christ vivre des moments extrêmement difficiles en ce moment. Alors enfin, et je mesure mes propos, enfin, nous allons pouvoir goûter certainement à nouveau, comme jamais auparavant, aux délices de la présence de Dieu. Dieu va enfin devenir précieux à nos yeux. Parce que nous avons tant de divinités qui prennent la place, y compris dans nos vies d'église. Amalek. Et j'aimerais ce soir souligner l'importance d'une vie disciplinée, de la maîtrise de soi, l'importance de tenir son corps assujetti, l'importance de contrôler nos appétits, nos désirs naturels, nos émotions, dans un monde qui a totalement lâché la bride à tous ses instincts. Et cela nous influence. Nous sommes fortement tentés, vous et moi, d'aller dans la même direction. Alors nous avons ce texte toujours dans le contexte du combat, n'est-ce pas, de 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, le mot qui a donné agonie en français, s'imposent toute espèce d'abstinence, une discipline sévère. C'est un terme dans lequel il y a la dimension de la maîtrise de soi, le terme qui figure dans l'énumération du fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Il est là, le terme. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours. Non pas comme à l'aventure. Je frappe littéralement, je boxe. Il est question du pugilat ici. On est en plein dans le contexte des Jeux Olympiques. mais je meurtris, je me fais des bleus, littéralement. Je meurtris durement mon corps. Je le tiens en bride, littéralement, assujetti en bride, de peur d'être moi-même désapprouvé, disqualifié, après avoir prêché aux autres. Ça, c'est le combat contre Amalek. Est-ce que c'est notre combat ? Nous avons parlé de Jeux olympiques. Nous pourrions prendre tant d'exemples chez les nageurs qui sont prêts à tant de sacrifices. J'ai ce texte sous les yeux. Lorsqu'un nageur se prépare à disputer une course, il enlève, à l'exemple du coureur, tout vêtement qui pourrait par son poids diminuer sa vitesse. Il va même plus loin que le coureur. Il rase aussi son corps. Certains nageurs se rasent même la tête afin d'être en mesure de gagner cette fraction de seconde que ces détails insignifiants leur coûteraient lors d'une compétition. C'est l'exemple que Paul prenait. Toutes ces petites choses, qui nous font la guerre. Et il y en a des petites choses qui nous font la guerre et auxquelles nous n'attribuons pas assez d'importance. J'ai relevé ces citations qui sont impressionnantes. Le rejet des petites méchancetés, des petits péchés, des petits écarts de conduite, des petites faiblesses, des petites folies, des petites indiscrétions et imprudences, des petites marottes, des petites complaisances de la chair, des petits signes d'indolence, d'indécision, de paresse et de lâcheté, des petites tergiversations et déformations de l'intégrité absolue, des petits gestes mesquins déplacés, des petites indifférences aux sentiments, aux désirs d'autrui, des petites manifestations de colère, de mauvaise humeur, d'égoïsme ou de vanité. Le rejet de toutes ces petites choses constitue au moins le beau côté négatif d'une vie sainte. Ou encore ce puritain qui écrit « Les grands péchés effraient plus vite l'âme que les petits. » Ils la mettent sur ses gardes et la poussent à la repentance plus vite que les petits péchés se glissent subrepticement dans l'âme, s'y développent et accomplissent un travail secret et imperceptible jusqu'au moment où, devenus forts, ils sautent sur elles et les gorgent. Mes amis, que de chute dans l'adultère et dans d'autres déviations de la sexualité. Dans d'autres péchés ayant pris des proportions terribles, sont liés à ce que l'on n'a pas combattu quand ces problèmes étaient tout petits. Est-ce qu'on a simplement chéri des petites choses anodines? Jusqu'à ce qu'un jour, à la faveur d'une situation toute particulière, de certains événements, d'un état de fatigue, d'une conjoncture d'événements, ce soit le gros crack qui s'installe. La grande surprise pour l'entourage. On se dit, mais comment est-ce possible? Et on ne réalise pas que tout cela s'est préparé pendant des années parfois. Parce que nous sommes des êtres tellement naïfs, parce que nous pensons que nous avons la capacité de contrôler le péché tout petit. Nous pensons que nous réussirons à contrôler telle petite déviance dans le domaine de la sexualité, tel regard impur, telle convoitise de la femme de l'autre ou du mari de l'autre. Personne ne le voit. C'est quelque chose de secret, c'est quelque chose de caché, c'est là. Finalement, ça ne gêne personne, disons-nous. On le contrôle. On se garde bien d'être une occasion de chute, un obstacle. On cultive. C'est tellement à la mode de cultiver ces fantasmes. Tout le monde vous dit que surtout, il ne faut pas refouler. Allons-y dans les fantasmes. Laissons travailler notre imagination. Et on se figure qu'on a le contrôle sur tout cela. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et on ne se rend pas compte que petit à petit, ce cancer gagne du terrain, développe sournoisement ses métastases. L'ennemi menteur, rusé, fourbe, trompeur nous laisse croire que nous sommes toujours maîtres à bord, que nous avons toujours le contrôle, quand ceux qui vivent près du Seigneur commencent à réaliser « Oh, il y a quelque chose qui, on ne sait pas quoi, mais qui ne marche pas chez ce frère, cette sœur. On ne sait pas quoi. Mais il y a des petits signaux d'alarme. Et puis un jour, c'est le grand crack. Ça, c'est Amalek. Amalek qui barre le chemin. Le matérialiste, le charnel. Celui qui veut nous empêcher absolument d'avancer. Quelqu'un écrit, « Le matérialisme fait la guerre à nos âmes de deux façons différentes. Il commence par nous rendre mécontents et jaloux d'autrui. Ensuite, il nous amène à gâter et à satisfaire notre corps. Il nous rend paresseux et nonchalants, physiquement d'abord, puis spirituellement. Paul dit vouloir faire de son corps son esclave pour que, après avoir prêché aux autres, il ne soit pas lui-même disqualifié. Dans cette déclaration, il se place non pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Il sait bien que la nonchalance physique mène inévitablement à la nonchalance spirituelle. Dans un corps choyé, les instincts, les passions ont tendance à prendre le dessus et à dominer nos pensées, nos actes. Nous tendons à faire non pas ce que nous devrions, mais ce que nous voulons faire en suivant les désirs de notre nature pécheresse. Souvenons-nous que dans la vie du grand roi David, c'est au sommet de sa royauté qu'Amalek lui a barré le chemin et a plongé toute la dernière partie de la vie de ce grand roi dans une semi-obscurité. Il y a perdu son autorité. David Bathsheba. On se repose, on paresse, on somnole, à l'heure où les rois, normalement, sont en campagne, sur le terrain, dans le combat. Et c'est là qu'Amalek se dresse. C'est là que le regard convoite. Et vous savez quelle déchéance s'ensuit. Alors si nous partageons ceci ce soir dans le cadre du combat, de la guerre spirituelle, c'est pour que nous puissions faire le point. Parce que mes bien-aimés, nos églises sont souvent bloquées par des problèmes secrets de cet ordre-là. Et il faut qu'ils cessent en quelque sorte d'être secrets. Il faut que ça sorte. Si c'est nécessaire... Si c'est le problème de quiconque d'entre vous, réglez-le maintenant, avec le Seigneur. Allez voir un aîné dans la foi mûre, qui soit capable de supporter ce que vous avez peut-être à partager avec lui, de vos combats, de cet Amalek qui se dresse, de peut-être ce que vous cultivez depuis un certain temps. qui vous affaiblit. Mais faites-le, je vous en supplie, avant que ce soit une grenade qui explose au cœur de l'Église locale. Parce qu'il y a trop de grenades qui explosent à l'heure actuelle au cœur de nos églises. Parce que on a l'apparence de la paix, l'apparence du succès, l'apparence de la piété. Et pendant ce temps, on cultive un tas de petits comportements que l'on croit contrôler, jusqu'à ce qu'un jour, ça vous saute au visage. Et ça tue, ça frappe, ça explose aussi et ça fait du mal autour de vous. Quelqu'un écrit ceci, il faut que nous étudions nos mauvais désirs et la façon dont ils nous attaquent. Le devoir de découvrir les moyens, les ruses, les méthodes, les avantages et les occasions du succès du péché est le fondement de cette guerre. Réfléchissez à l'avance. Il est incroyable de voir combien souvent nous pénétrons dans des domaines de tentation connus sans le moindre plan et sans la moindre résolution pour réagir. Et j'aimerais vous poser la question ce soir. Tout d'abord, est-ce que vous êtes lucide sur votre côté vulnérable? Sur ce domaine fragile de votre vie où vous savez que l'ennemi a plus particulièrement prise. Deuxièmement, est-ce que vous avez remarqué dans votre vie à quel moment Amalek va se dresser sur votre route dans ce domaine de votre vulnérabilité? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez essayé d'en démonter les mécanismes, de comprendre comment il s'y est pris chaque fois? Et troisièmement, avez-vous réfléchi à la stratégie spirituelle biblique à mettre en œuvre pour faire face à vos découvertes? Depuis 17 ans maintenant, je suis de manière très régulière, pratiquement mois après mois, un croyant qui, il y a 15 ans, a voulu faire une expérience. Célibataire, travaillant en région parisienne, elle est assez grande pour que vous ne sachiez pas qui c'est. Il a dit, je vais essayer. Et il est allé à Pigalle, et il est allé dans le lit d'une prostituée. Il a voulu essayer une fois. Mes amis, une fois. Il ne savait pas dans quel engrenage il mettait sa vie. Un an plus tard, il me téléphonait. Au bord du suicide. Et il venait me voir pour un entretien, pour me dire cela. Et mes amis, sachez ceci, c'est que cela fait 15 ans que d'année en année, il grandit dans la victoire à l'intérieur de combats parfois terribles, à cause de cette seule voix. Et nous avons mis au point ensemble, il y a 15 ans, une stratégie pour qu'il entre dans une vie de victoire, qu'il sache comment se battre. Il lui est arrivé à plus d'une reprise de rechuter ensuite. Chaque fois, nous avons fait un bilan. Chaque fois, nous nous sommes rendus compte que l'ennemi attaquait à un moment précis, d'une certaine manière, quand un certain nombre de conditions étaient remplies. Et mon ami a appris à combattre dans cette guerre spirituelle contre Amalek. Nous avons un engagement ensemble sur un petit carton, sur un Bristol, où il signe, où je signe pour faire équipe avec lui. Quand il chute, il met une couleur. Quand il remporte la victoire pendant un mois d'engagement, il met une autre couleur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que d'année en année, c'est la couleur de la victoire qui prédomine de plus en plus. Mais quel combat! Quel combat! Avez-vous une stratégie? Vous êtes-vous une fois arrêté, ou arrêté peut-être avec quelqu'un si il vous semble trop difficile de le faire seul? Vous êtes-vous arrêté avec quelqu'un honnêtement pour lui dire, voilà, ça c'est le domaine de ma fragilité. Je sais combien je suis vulnérable là, et je sais qu'un jour tout peut exploser. Mais devant Dieu, je veux vraiment m'en sortir. Frère, j'ai besoin de toi. Comment faire? Et ne tombons pas dans une espèce de fétichisme, de superstition, de magie de la foi. C'est trop facile de penser qu'il y a des formules magiques, des espèces de sésame, ouvre-toi. Hein. Vous pressez sur le bon bouton et puis vous êtes délivré à jamais. C'est vrai que dans sa grâce et dans sa souveraineté, il arrive dans certaines situations, tout à fait en dehors de l'homme, que Dieu délivre de manière instantanée. Il fait grâce. Dieu est libre. Mais j'ai remarqué que ce n'est pas la norme, c'est l'exception. Et quand tout ce qui concerne notre tempérament, les questions de caractère, les questions de sexualité, les questions d'occultisme. Dieu travaille avec le temps. Parce que nous ne supporterions pas qu'il travaille plus vite, tant notre cœur est tortueux. Tant nous sommes naïfs. Écoutez ceci, et je vais terminer avec cela. La faim, F-A-I-M, constitue l'un de nos appétits humains fondamentaux. Et la gourmandise, l'un des péchés les plus généralisés. Aussi, la maîtrise de soi perd-elle tout son sens si elle n'inclut pas le contrôle de notre corps. Paul utilise l'exemple de l'athlète qui, pour être en mesure de participer à une compétition, doit cultiver sa forme physique en s'entraînant. L'entraînement suppose une discipline alimentaire, du sommeil et de l'exercice. Un athlète s'entraîne à la maîtrise de soi dans tous les domaines. Et les disciples engagés dans la course chrétienne sont soumis aux mêmes règles. Paul parle de traiter durement son corps, de lui faire des bleus, de le tenir assujetti, de le traiter comme un esclave. Ce n'est pas là du masochisme, c'est-à-dire éprouver du plaisir à s'infliger des souffrances, ni un faux ascétisme, ni encore une tentative de s'attirer des mérites comme les pharisiens dans le temple. Nous n'avons aucune raison de punir notre corps, car il est création de Dieu, mais nous devons le discipliner afin qu'il nous obéisse. Peut-être avons-nous des problèmes avec notre coup de fourchette. Et nous aurons, oh, ben ça ne regarde que moi, c'est mon corps. Le problème, c'est que ma personne est le sanctuaire du Saint-Esprit. Et que je n'ai pas le droit de faire de mon corps ce qu'il me plaît. Et que dans le combat, dans la guerre spirituelle, mon corps, même dans sa fragilité, même s'il va vers la terre, mon corps reste un instrument qui doit être dominé, assujetti. Et en France, les excès de table, hein, même à l'heure du fast-food, on connaît encore ça. C'est quasi viscéral, cultivé depuis trop longtemps pour que ça disparaisse comme ça. Alors je termine. Et je termine simplement en soulignant le danger de la complaisance envers soi-même, de la préservation de la vie propre. Nous avons lu 1 Samuel 15, vous vous souvenez de ces deux premiers versets, Amalek qui barre le chemin. Alors, nous allons terminer simplement en reprenant le texte. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple, en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied, 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek, mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Saül a été complaisant avec Amalek. Vous savez que c'est ce qui lui a valu la perte de sa couronne. Tout simplement. Il y a perdu sa couronne. C'est le tournant de l'histoire de Saül. Toute la suite est intéressante. Et ça va plus loin. Je suis quand même frappé là par l'unité des Écritures, puisque nous avons carrément non seulement la perte de la couronne, mais la perte de la vie. Parce que Amalek, nous le retrouvons dans 2 Samuel, chapitre 1er. Verset 1er, après la mort de Saül, David qui avait battu les Amalécites était revenu à Tsiklath depuis 2 jours. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu ? » Il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé ? Dis-le-moi donc !» Et il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille, un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan son fils sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan son fils sont morts ? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa et voici Saül s'appuyait sur sa lance et voici les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut, m'appela, je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu ? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche-toi, donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui, je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, je les apporte ici à mon Seigneur. Peu importe qu'il y ait une certaine divergence entre ce qui nous est dit avant de la mort de Saül et le rapport qui nous est donné ici. Ce qui est certain, c'est que l'Amalécite était dans le coup. Il y a une sorte de continuité dans la vie de Saül. Parce que Saül a été complaisant avec Amalek, il y a perdu sa royauté et il y a perdu la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, 1 Samuel 15 et 2 Samuel chapitre 1er, Agag, roi d'Amalek, a été immédiatement mis à mort. Tout de suite. Prenez la conclusion d'un Samuel 15. Et ici, dans 2 Samuel chapitre 1er, à partir du verset 13, David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu ? » Il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Mais comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel, de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approchez-tu-le. » Cet homme frappa la Amalécite qui mourut. Immédiatement. Des hommes comme Samuel et comme David n'avaient aucune complaisance. Ils savaient trop combien la Amalécite est dangereux. Même quand il se montre encore tout petit, tout petit, tout petit. Même comme quand il nous titille au travers des plus petites choses de la vie de tous les jours. Je le disais hier soir, à cette époque, l'an dernier, nous étions au Liban et en Syrie. Et au Liban, nous sommes allés voir à 2000 mètres d'altitude, les fameux cèdres de Dieu, comme on les appelle là-bas. Et il y avait là quelques dizaines de vieux cèdres âgés de 3000 ans. Ah, oh, mes amis, c'était à la fois beau et mouvant et triste. Parce qu'on les entoure, ces cèdres. Et on les entoure d'une manière toute particulière parce qu'ils sont menacés de mort par la pollution. Alors on les soigne. J'ai un document avec toute une liste de petites bébêtes hein, qui font leur travail petit à petit sur ces géants extraordinaires qui ont résisté pendant 3000 ans, à 2000 mètres, à des conditions atmosphériques terribles. Et qui maintenant sont attaqués par toutes sortes de microbes. Alors il faut les soigner, puis on installe des paratonnerres. On était en train d'installer des paratonnerres à cause des tempêtes, n'est-ce pas? Combien on les entoure? Des petites choses, mais qui finalement viennent à bout de géants dans le monde de la nature. C'est une parabole pour nos vies. Si nous soignons certaines petites choses qui appartiennent au péché, mes amis, un jour, ça va nous exploser au visage. Ça va faire des dégâts dans nos vies, ça va faire des dégâts dans la vie de l'Église. Les gens vont se poser des questions. Mais en réalité, ce sera souvent le résultat d'un lent travail d'Amalek. Parce que nous aurons été trop complaisants envers nous-mêmes et envers le péché, et que nous n'aurons pas réalisé que dans ce domaine-là, nous sommes en face d'un ennemi qui n'hésite devant rien. Ainsi est le diable. Que Dieu veuille, et il le veut, que nous prenions à cœur cet enseignement. Non pas demain, après-demain, mais ici et maintenant, ce soir, nous voulons prier. Seigneur, tu es si bon. Tu es si bon de nous ouvrir ton cœur de père, de ne pas nous cacher les vérités que nous avons besoin d'entendre pour notre salut, pour notre santé, pour notre sauvegarde, pour notre croissance en maturité, pour que nous puissions être en bénédiction pour ce qui nous entoure et pour ce monde sans Dieu et sans espérance. Seigneur, merci pour ces expressions de ton amour à notre égard. Merci parce que tu veux travailler, continuer à travailler dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos consciences, dans nos volontés aussi, pour que nous soyons sans complaisance vis-à-vis de cet Amalek qui continuellement tente de nous barrer le chemin, pour que nous n'allions pas plus loin avec toi. Ô Seigneur, sois-toi victorieux dans nos combats. Celui qui, sans doute, fait rage dans tel ou tel cœur au milieu de nous. Apprends-nous à être intègres, droit devant toi. Merci de nous aider à sortir de nos boîtes, de nos masques protecteurs pour vivre dans ta lumière. Mais Seigneur, merci parce que ce combat vaut la peine d'être vécu. Nous te bénissons parce que, certes, s'il est difficile, c'est un beau combat. Nous avons des objectifs. Nous avons une éternité à passer avec toi. Bientôt, nous te verrons face à face. Nous serons rendus semblables à ton Fils Jésus-Christ, car nous le verrons tel qu'il est. Seigneur, notre avenir n'est pas bouché. Alors merci. Merci de nous aider à vivre dans cette juste perspective. Donne toi-même vraiment cette suite dans chacune de nos vies pour la gloire de ton nom. Et bénis cette nuit, qu'elle soit de repos pour les uns et si nécessaire aussi de mise au point pour d'autres. Et que la matinée de demain nous trouve heureusement unis dans ta présence. Remporte des victoires. Nous le réclamons de ta part, par pure grâce, à cause de ton amour, de ta personne, pour ton nom, pour ton honneur, pour ta gloire. Fais-le, Seigneur. Nous t'en bénissons par avance, en Jésus-Christ. Amen.